Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes encore un petit peu réveillés? Oui? Oui, parce que le message que nous allons entendre et qui s'appuie donc sur la parole que nous avons lue, eh bien, ce message-là va nous engager. Je pense qu'à la lecture de ce que nous venons d'entendre, vous vous rendez compte de là où vous en êtes actuellement. Nous poursuivons notre série de prédications sur l'épître de Paul aux Colossiens. Et effectivement, comme cela a été rappelé, certains d'entre vous ont déjà étudié ce texte de cet après-midi dans les groupes de maison. Et peut-être que vous avez été sensible à un aspect ou à un autre qui sont en particulier dans ce texte d'ordre pratique. Et comme dans d'autres épîtres, dans la première partie de la lettre, Paul a donné une large part aux vérités doctrinales de l'Évangile, pour en tirer bien sûr des implications. Tout au long des chapitres 1 et 2, un nom revient sans cesse, une personne est constamment mentionnée. De qui je parle? Christ. C'est en lui que les Colossiens ont placé leur foi, chapitre 1, verset 4. C'est dans son royaume de lumière qu'ils ont été transportés, chapitre 1, verset 12. C'est en lui qu'ils ont le pardon des péchés. Chapitre 1, verset 14. C'est lui qui est le chef suprême de toute la création, ayant lui-même participé à la création, et rien ne peut subsister sans lui. Les versets 15 à 17. C'est lui qui est le chef suprême de l'Église, de la nouvelle création. Verset 18. C'est grâce à son sacrifice que les Colossiens sont réconciliés avec Dieu. Verset 22. C'est lui que Paul ne cesse d'annoncer aux nations au point de souffrir dans son ministère. Les versets 24 jusqu'au chapitre 2, verset 3. C'est en lui que les Colossiens doivent continuer à marcher. C'est en lui qu'ils sont enracinés et fondés. Les versets 6 et 7. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 9. C'est en lui que les Colossiens ont tout pleinement. Verset 10. C'est en lui qu'ils sont circoncis, verset 11. C'est avec lui qu'ils sont ensevelis et ressuscités, verset 12. C'est par sa mort sur la croix que les puissances mauvaises ont été vaincues. Ne pouvons plus accuser ceux qui ne sont plus condamnés pour leurs fautes, verset 13 à 15. C'est en étant attaché à lui que l'Église grandit d'une croissance qui vient de Dieu, verset 19 du chapitre 2. Un nom revient sans cesse, Christ. Alors que certains veulent entraîner les Colossiens vers plus de règles à suivre, vers des pratiques ascétiques, eh bien Paul dit simplement aux Colossiens que Christ leur suffit. Que ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection suffit pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Telle est la grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Et s'ils ont bien compris l'Évangile, eh bien, comment doivent-ils vivre maintenant qu'ils sont unis avec Christ? Et nous, si nous avons bien compris l'Évangile, vivons-nous notre vie chrétienne comme Paul en parle dans ce chapitre 3? Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre ne commence pas par la vie de famille à la maison. Il en parlera après. Mais il commence par la vie de famille dans l'Église, dans la maison de Dieu. Et avant cela, une fois de plus, Paul oriente les Colossiens vers Christ. Et pour ce message, je propose trois impératifs qui résument les exhortations de Paul. Premier impératif, recherchez. Deuxièmement, faites mourir. Et troisièmement, revêtez-vous. Recherchez, faites mourir et revêtez-vous. Recherchez, recherchez quoi? Eh bien, lorsqu'on voit les premiers versets ici, recherchez les choses d'en haut. Paul ne doute pas de la foi des Colossiens, même s'il ne les connaît pas personnellement. Mais il a entendu parler de leur foi. Ils ont réellement mis leur confiance en Christ. Et c'est pourquoi il peut affirmer à leur sujet qu'ils sont ressuscités en Christ. Qu'ils sont ressuscités avec Christ. Nous avons vu ce langage la semaine dernière. par son union avec Christ, par cette relation qui rend solidaire le croyant de Christ, le croyant est mort et ressuscité avec son Sauveur. Lorsque Christ, notre représentant, est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Nous n'avons plus à vivre comme avant. Nous sommes morts à notre ancienne manière de vivre. Et lorsque Christ, notre représentant, est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Christ nous permet d'avoir une vie nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Et c'est ce que nous lisons d'emblée au verset 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Une fois convertis, les chrétiens se tournent vers ce qui ne les intéressait pas auparavant, les choses d'en haut. Et vous remarquez l'exhortation que l'apôtre Paul adresse aux Colossiens. Recherchez ces choses. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Désormais, c'est Christ qui vous intéresse. C'est lui qui compte maintenant dans votre vie. Et Paul oriente leur regard vers le ciel. Là où siège Christ à la droite de Dieu. Il y a plus d'une semaine, vous en souvenez, c'était le jeudi de l'Ascension. Et heureusement que ce jour est encore dans notre calendrier, pour nous rappeler que notre Seigneur est bien au ciel, physiquement au ciel, et il est à la droite de Dieu. Et Paul exhorte à regarder de ce côté-là. Oui, nous vivons sur terre, mais en tant que chrétien, notre pensée est et doit être focalisée sur les réalités du royaume de Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». C'est une parole de Jésus. Et ici, recherchez les choses d'en haut. Aux chrétiens de Philippe, Paul écrit, leur écrit et leur parle de cette citoyenneté céleste, Philippiens 3, verset 20. « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. » Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre texte de Colossiens, Paul marque une opposition qui s'accentue par la suite. Les réalités d'en haut sont opposées à celles qui sont sur la terre. Il ne parle pas des réalités terrestres, de toutes les réalités terrestres, comme si elles étaient toutes mauvaises. Mais spécifiquement, et tout à l'heure nous allons en parler, il parle de certaines de ces réalités terrestres. Paul exhorte les Colossiens à s'attacher d'abord aux réalités d'en haut, qui font partie de leur nouvelle vie. Avant de connaître Christ, ils ne s'y intéressaient pas. Mais désormais, ce sont les seules réalités qui comptent. Et je mentionne au passage quelques traductions qui montrent que c'est une question de mentalité par rapport au verset 2. À la place de « attachez-vous aux réalités d'en haut », nous avons par exemple dans la version Colombe « pensez à ce qui est en haut ». Ou dans la version Semeur 2015 « de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut ». C'est une question de mentalité. Pensez aux choses d'en haut. Et nous avons besoin de tels impératifs dans la Bible pour nous stimuler à l'action. Autrement, on attendrait que quelque chose se passe. Mais nous avons ces impératifs qui nous disent d'aller chercher les choses d'en haut. Nous avons besoin de ces impératifs pour nous faire comprendre que notre vie en Christ a complètement changé d'orientation. Et voyez à présent la raison que Paul donne à l'impératif de s'attacher aux réalités d'en haut. Versets 3 et 4. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelle espérance! Quelle est la vérité qui est soulignée ici par l'apôtre Paul? Par rapport à notre ancienne vie, verset 3, vous avez connu la mort, nous sommes morts. Par rapport à notre ancienne vie, nous sommes morts. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, par la mort de Christ, nous sommes libérés d'une telle vie. Il nous faut donc mourir d'abord pour pouvoir ressusciter, spirituellement parlant. Et désormais, la nouvelle vie du chrétien est encore dissimulée aux yeux du monde. Dissimulée aux yeux de ceux qui s'attachent aux réalités terrestres. Cette vie est pour le moment cachée avec Christ en Dieu, ce Dieu que le monde ne connaît pas. Et dans cette vie présente, effectivement, il n'est pas apparent que pour tous que notre vie est liée à Christ. Mais un jour, au jour glorieux du retour de Jésus, tous verront vraiment celles et ceux qui lui appartiennent. C'est là que tous sauront qui sont celles et ceux dont la vie était liée à Christ. Et au bout du compte, comme nous le voyons au verset 4, c'est lui qui est notre vie. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que nous obtenons la vie éternelle. C'est lui notre vie. Et lorsque notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Et là, tous sauront que oui, effectivement, notre vie était en fait liée à Christ. Cette exhortation à rechercher les choses d'en haut nous est aussi adressée cet après-midi. Comprenons qu'il ne s'agit pas de sortir du monde, de vivre en dehors du monde, mais plutôt, tout en vivant dans le monde, d'orienter nos pensées, notre cœur, vers ce qui compte réellement maintenant pour nous. Vers Christ, vers son royaume, vers ses valeurs. Est-ce que tu as pris cette orientation dans ta vie ? De rechercher les choses d'en haut. Normalement, si tu es ressuscité avec Christ, tu devrais prendre cette orientation. Normalement. Puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous ne devons plus vivre une vie alternative à côté ou à la place de celle que Christ nous a donnée. Avec la nouvelle vie viennent de nouvelles réalités qui doivent occuper toujours plus nos pensées. Est-ce que nous avons pris cette orientation ? Et j'ose dire que si nous n'avons pas pris cette orientation, alors il faut douter de sa conversion. Parce que nous ne sommes pas réellement ressuscités avec Christ. Mais j'ose croire aussi que beaucoup d'entre nous, nous comprenons ces réalités. Et qu'en étant ressuscités avec Christ, nous savons que cette nouvelle vie consiste à rechercher les choses d'en haut. D'où l'appel à faire mourir ce qui n'a plus sa place dans la vie avec Christ. Et j'en viens à mon deuxième impératif, faites mourir. À partir du verset 5, faites mourir en vous ce qui est terrestre. Et vous avez une liste ici, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Forcément, adopter une vie nouvelle, c'est mettre fin aux anciennes habitudes, c'est mettre fin aux anciennes valeurs, celles qu'on avait peut-être autrefois adoptées. Et Paul met le doigt sur les péchés qui résident à l'intérieur des êtres humains, au niveau du cœur. C'est cela qu'il appelle terrestre. C'est cela qui fait partie de ce monde corrompu. Or, le chrétien est mort à tout cela. Non seulement il est mort à tout cela, mais il doit faire mourir ses péchés. D'autant plus qu'il vit dans un environnement qui va dans le sens de ses mauvais désirs. Déjà à l'époque de Paul, et aujourd'hui, cela nous semble si flagrant quand nous regardons à l'immoralité qui s'affiche partout. Nous vivons dans cet environnement-là, mais vous avez cet impératif dans la parole de Dieu. Faites mourir ce qui est terrestre. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous donner davantage d'exemples par rapport à notre environnement, par rapport à ce que nous pouvons observer. Regardez encore cette liste qui regroupe 5 vices. Et en tant que chrétien, dites-vous que ce sont les péchés à abattre. À faire mourir, à faire disparaître. Il ne s'agit même pas de tolérer leur existence dans notre vie. Il faut y mettre un terme. Et aussi souvent que cela sera nécessaire, car ces péchés sont coriaces. Immoralité sexuelle, impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. Il ne s'agit pas de tolérer leur existence dans notre vie. Et si nous avons reconnu que toutes ces impuretés ne sont pas compatibles avec la vie nouvelle que Jésus nous donne, faisons-les disparaître. Et je ne prétends pas que c'est facile. C'est une lutte constante de toute une vie. Mais voyez à quel point ces péchés sont condamnables, et tout péché est condamnable. Verset 6, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Parce que les hommes continuent de commettre ces péchés, la colère de Dieu va s'abattre, va venir. Bien sûr, déjà dans ce monde, Dieu exécute des jugements, mais il reste une colère à venir. Le jour de sa colère n'est pas encore là. Et ce sera un jour où il mettra un terme à ses péchés. Et quel jour terrible ce sera pour celles et ceux qui seront restés endurcis dans leur rébellion toute leur vie durant. Et Paul n'oublie pas de mentionner, de rappeler aux Colossiens que ces péchés qu'il vient de parler, dont il vient de parler, et qu'il doit faire mourir, faisaient partie de leur passé. Faisaient partie de leur ancienne vie. Mais voyez, ça faisait partie de leur ancienne vie, mais ils doivent encore faire mourir cela. Ce n'est pas parce que nous avons connu certains péchés dans le passé que ça ne ressurgit pas et qu'on ne doit pas s'en débarrasser. Désormais, dans leur nouvelle vie en Christ, ces péchés n'ont plus leur place. Et pas plus que ceux que Paul mentionne au verset 8. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. 5 autres péchés à bannir de la vie de tout croyant. Il s'agit d'y renoncer dans le sens de s'en débarrasser. Et là aussi, il faut les faire disparaître. Ce sont des péchés capables de détruire les relations. Et Paul a en tête les relations d'abord au sein de l'Église. Celles et ceux parmi nous qui ont un souci avec la colère ou la méchanceté ou une mauvaise maîtrise de leur bouche savent combien ces péchés sont destructeurs pour les relations. Pensez autour de vous peut-être, ou vous-même, à quelqu'un de colérique. Combien c'est destructeur pour ces relations. Et Paul nous dit quoi ici? Renoncez à tout cela. Se débarrasser de ses péchés est nécessaire, tout simplement parce que le chrétien n'est pas une personne isolée. Il est intégré à un corps, le corps de Christ qu'est l'Église. Et Paul va d'ailleurs rappeler aux Colossiens cette réalité du corps. Autant c'est dangereux pour un chrétien de se séparer du corps de Christ, autant c'est dangereux pour un chrétien de ne pas se séparer de ses péchés qui font du mal au corps de Christ. Vous saisissez la pensée? Autant il est dangereux pour un chrétien de se séparer du corps de Christ, de se détacher de l'Église. Mais il est tout aussi dangereux pour un chrétien de ne pas se séparer de ses péchés qui font du mal au corps de Christ. Et c'est pourquoi Paul poursuit avec un impératif destiné à tous, verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Le mensonge dont le diable est le père doit aussi être banni de nos paroles. Dans l'Église, dans la communauté de Christ, seule la vérité prévaut. Et vous voyez comment Paul le justifie. Pourquoi il ne faut pas se mentir les uns aux autres? Regardez le verset 9 et 10. « Car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Paul ici utilise l'image du vêtement. Il l'utilise souvent, dans d'autres épîtres aussi, pour bien indiquer qu'un changement a été opéré. Il s'agit d'enlever un vêtement pour s'habiller d'un autre vêtement. Ce n'est pas d'enfiler un vêtement par-dessus l'autre, c'est d'enlever un vêtement et d'en prendre un autre à la place. Ce qui est du vieil homme et qui correspond aussi à ce qui est terrestre, eh bien les Colossiens se sont débarrassés de ce vêtement au moment où ils sont venus à Christ. Et en entendant l'Évangile, eh bien, et en connaissant Christ, ils ont pris un nouveau vêtement, l'homme nouveau, l'homme restauré à l'image de Dieu. L'homme restauré à l'image telle que Dieu voulait que l'homme soit au départ. Et vous remarquez que cet homme nouveau est un homme qui se renouvelle, qui poursuit sa transformation, parce qu'en ce qui nous concerne, le processus n'est pas terminé. Quelque chose a commencé. Au moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, au moment où nous nous sommes convertis, nous sommes tournés vers lui, quelque chose a commencé. Nous avons pris effectivement ce vêtement de l'homme nouveau, mais ce n'est pas terminé. Et il continue de se renouveler pour être à l'image de celui qui l'a créé. Et vous remarquez la finalité. Pourquoi ce renouvellement? Pour parvenir, verset 10, à la vraie connaissance. Alors, on parle de quoi ici quand on parle de vraie connaissance? Eh bien, la seule connaissance qui compte, c'est la connaissance de Dieu, le fait de connaître Dieu. Donc, si nous sommes renouvelés, c'est pour pouvoir parvenir à cette connaissance, de connaître toujours mieux notre Dieu. Toujours mieux. Et plus nous le connaissons, et plus effectivement, nous sommes transformés à son image. En d'autres termes, il est question de la nouvelle humanité, ou tout à l'heure, nous l'avons chanté, de la nouvelle création, qui a déjà débuté pour nous. Ce n'est pas, quand je parle de nouvelle humanité, ce n'est pas un concept de science-fiction, ou ce n'est pas une idée complotiste. C'est tout à fait sérieux et merveilleux à la fois. Parce que cet homme nouveau, cette humanité nouvelle, a un créateur, et c'est Dieu. C'est Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Et dans cette humanité nouvelle, vous le voyez au verset 11, eh bien, les distinctions ne comptent plus. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Alors, Paul n'est pas en train de dire que ce sont des distinctions qui disparaissent complètement, comme si un juif arrêtait d'être juif, ou un non-juif arrêtait d'être non-juif. Mais là, on est en train de parler de cette nouvelle humanité, cette réalité qui concerne les hommes et les femmes, quelles que soient leurs conditions. Et comparé à Christ, eh bien, ces distinctions n'ont pas d'importance. Désormais, Christ est tout. Et chose merveilleuse, il est aussi en tous. Et nous sommes transformés par l'Esprit à son image. Et à cause de tout cela, eh bien, Paul appelle les Colossiens à ne pas se mentir les uns aux autres, parce que ce sont de nouvelles personnes. Le mensonge, ça appartenait au vieil homme. Maintenant, leur vêtement, leur nouveau vêtement, c'est l'homme nouveau. Mes amis, dès aujourd'hui, si nous l'avons délaissé, nous devons reprendre le combat et faire mourir ces péchés que j'ai mentionnés un peu plus tôt, plutôt que de les tolérer dans notre vie. Et je sais combien les chrétiens d'aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, ont à lutter en particulier contre les péchés sexuels. Et ce n'est pas pour rien que c'est mentionné ici, parce que ça gâche la vie. Les tentations sont fortes. D'autant plus peut-être à notre époque, encore plus qu'à l'époque des Colossiens, peut-être. Et comme nous le lisons aussi dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Pourquoi nous sommes tentés ? Parce que, effectivement, nous avons de mauvais désirs en nous. Et si nous laissons cela se développer, nous succombons à la tentation et nous péchons. Paul vise précisément ces mauvais désirs qui peuvent rester cachés aux yeux des autres et qui s'expriment par des pratiques honteuses à l'abri des regards. Ce qui doit nous convaincre de continuer à lutter contre de tels désirs, c'est le fait que nous avons embrassé une vie nouvelle qui est liée à Christ. Qu'est-ce que ces péchés ont à faire dans une telle vie ? Quel rapport avec Christ ? Quel est le rapport entre ces péchés et Christ ? Il n'y a aucun rapport. C'est pourquoi le chrétien doit faire mourir ses péchés. Ne pas tolérer leur existence dans sa vie. Et le fait d'appartenir à Christ devrait nous faire réagir face à ces péchés qui sont si communs dans notre société. Et notre réaction première est la suivante, mettre à mort des péchés, ces péchés-là, d'abord en nous. Il ne s'agit pas de lutter contre la société qui pêche de cette manière-là. Il faut d'abord régler cela en nous. Paul dit ailleurs, dans la lettre aux Romains, de faire mourir par l'esprit les actes mauvais que nous accomplissons dans notre corps. Romains chapitre 8, verset 13. Faire mourir par l'esprit les actes mauvais que nous accomplissons dans notre corps. Assurément, pour faire mourir le péché, le chrétien a besoin du Saint-Esprit. Il doit compter sur son œuvre en lui. Alors bien sûr, dans notre texte de Colossiens, Paul ne le dit pas explicitement, il ne parle pas de l'esprit, mais assurément il fait référence à la même réalité lorsqu'il donne cet impératif « faites mourir ce qui est terrestre ». Et d'ailleurs, nous parlerons davantage de la vie par l'esprit dans la prochaine étude biblique qui a lieu ce mercredi à partir du texte de Galates 5, qui va parler de ces mêmes réalités. Et pour aller plus loin, parce que en fait c'est un sujet qui serait tellement vaste, mais je voulais particulièrement insister là-dessus parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi le premier, hein, c'est moi le prédicateur. Donc on n'en parle pas assez. Et pourtant, dans la vie chrétienne, on a tellement besoin de savoir l'importance de faire mourir ces péchés dans notre vie. Et pour aller plus loin, je vous conseille, en tout cas un jour ou l'autre, où vous pourrez lire cet ouvrage de John Owen, « La mortification du péché ». John Owen, qui était pasteur et théologien puritain anglais du XVIIe siècle. La mortification du péché. On n'en parle pas assez dans nos églises, sans doute. Mais c'est un livre qui a pas mal de conseils pratiques. Et c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Faire mourir ces péchés. Ne pas leur donner d'existence dans notre vie. Retenons donc de ce que nous venons de dire que nous devons rester actifs dans notre lutte contre le péché. Si on s'est endormi à un moment donné, il faut se réveiller cet après-midi. Il s'agit de faire disparaître ce qui ne correspond plus à ce que nous sommes. Nous qui avons revêtu l'homme nouveau. Et c'est la raison pour laquelle nous nous tournons résolument vers ce qui caractérise l'homme nouveau. Et je terminerai avec ce troisième impératif. Revêtez-vous. Revêtez-vous, bien sûr, de tout ce qui caractérise l'homme nouveau, et on pourrait le résumer encore autrement, parce que nous le voyons aussi dans d'autres textes, revêtez-vous de Christ, bien sûr. C'est une chose de lutter contre le péché, et je le répète, c'est une nécessité qui est liée à notre nouvelle condition, à notre nouvelle identité. Mais c'en est une autre que de rechercher les qualités qui viennent de Dieu. Et nous devons faire cela aussi, être actifs aussi à ce niveau-là. Verset 12, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Paul souligne l'identité nouvelle des Colossiens. À ces non-juifs, Paul attribue des caractéristiques qui étaient celles du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Un peuple choisi, un peuple saint, un peuple aimé de Dieu. Eh bien, il applique ça aussi aux Colossiens. Vous êtes désormais le peuple de Dieu, aussi. Et comment ce nouveau peuple est-il appelé à se comporter ? Eh bien, regardez, ici on a une liste de 5 vertus ou de 5 qualités mentionnées. Tout à l'heure, on avait 2 listes de 5 vices. Sans doute qu'il y a une réponse à cela. 5 qualités : compassion, bonté, humilité, douceur et patience. Et bien sûr, cela ne vous échappe pas, ce sont autant de qualités que nous retrouvons chez le Seigneur lui-même. Il s'agit pour les chrétiens de vivre avec ces dispositions-là, les mêmes que notre Maître Jésus. Et nous retrouvons d'ailleurs une partie de cette liste aussi dans le fruit de l'Esprit. C'est donc avec de telles qualités qu'il faut envisager les relations au sein de la communauté des croyants, au sein de l'Église. C'est avec ces qualités-là. Si vous venez avec la colère, la fureur, vous êtes sûr que vous allez détruire l'Église. Enfin, vous n'allez pas complètement la détruire, mais vous allez faire du mal. Mais si vous venez avec la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience, là, ça fait toute la différence. Parce que vous vous mettez à vous comporter comme Christ. Et c'est pourquoi nous lisons à partir du verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Puisque nous avons de la patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Et verset 15, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. » Quand nous lisons cela, ce que je viens de lire, nous reconnaissons que la vie d'Église devrait toujours être ainsi. De pouvoir se supporter les uns les autres, de se pardonner en toutes circonstances, d'être revêtu particulièrement de l'amour par-dessus tout. Nous devons activement rechercher ces qualités dans notre vie. Si tu manques de patience, va chercher auprès du Seigneur cette patience-là. Demande-lui une telle patience, puisque c'est le fruit de l'Esprit. Et cet Esprit, tu l'as reçu. Surtout si tu manques de patience pour supporter les autres. C'est bien sûr à Christ qu'il nous faut regarder pour apprendre à développer ses vertus. Et encore une fois, tout à l'heure, je l'ai dit, plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes transformés à son image. Et plus nous connaissons Christ, et plus nous sommes transformés à son image. Est-ce que vous connaissez la patience de Christ à votre égard ? Est-ce que vous connaissez son humilité ? Qu'il a démontré durant sa vie sur terre. Et j'attire votre attention sur deux éléments ici, pour les versets 13 à 15. D'abord, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous avons bénéficié du pardon total de Christ, qui a pardonné tous nos péchés. Et c'est pourquoi nous pardonnons à notre tour. Nous n'avons pas d'autre motivation. Je ne pardonne pas à l'autre parce que c'est bien de pardonner à l'autre. Mais je pardonne à l'autre parce que Christ m'a pardonné. On n'a pas d'autre motivation. Toute autre motivation détachée de Christ ferait du pardon que nous accordons une œuvre dont nous sommes fiers. Regardez combien je suis bon, je pardonne aux autres. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Nous devons partir de la motivation première, qui est que comme Christ m'a pardonné, je peux effectivement, et je veux, et je dois pardonner aux autres. Chaque fois que nous serons conduits à nous pardonner mutuellement, nous devons premièrement penser au pardon qui nous vient du Seigneur. Nous ne devons pas nous dire « Je sais que c'est une bonne chose et je dois le faire. » Non, nous devons d'abord penser à la motivation première qui est que Christ nous a pardonné. Et je vous pose cette question, est-ce que tu connais le pardon de Christ à ton égard ? Et je dirai un mot du verset 15, parce qu'il est question de la paix de Christ. Et je pense que parfois, on a tendance à peut-être mal comprendre ce verset, surtout qu'il dit que la paix de Christ règne dans votre cœur. Mais de quoi s'agit-il ici ? Est-ce qu'on parle de cette paix intérieure qu'on ressent ? Je ne pense pas. Parce que regardez ce qui qualifie cette paix. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. De quoi parle-t-on ici quand on parle de la paix ? On parle de la réconciliation. On parle de ce que Christ a accompli pour que nous puissions former un seul corps. Donc cette paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, que cette paix-là règne dans votre cœur. Que cette paix-là puisse diriger, dans d'autres versions, puisse gouverner vos décisions. Lorsqu'il s'agit par exemple de résoudre des conflits, à quoi pense-t-on d'abord ? Non pas au fait qu'il faut régler des conflits pour qu'on s'entende bien, mais à la paix que Christ nous a acquis. Lui qui voulait un seul corps, pas plusieurs corps, un seul corps. Que la paix de Christ règne dans notre cœur. Que cette paix puisse gouverner nos décisions. Pour que ce qui compte pour nous, c'est qu'effectivement cette œuvre que Christ a accomplie pour former un seul corps soit préservée. Que ce corps soit préservé. Vous avez chaud ? Un peu, hein, parce que moi je commence à avoir chaud. Versets 16 et 17, pour terminer. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. La fin de notre texte met l'accent sur ce qui rassemble les chrétiens. La parole de Christ, la parole de vérité, l'évangile, la parole de Dieu, telle que nous sommes en train de la lire, doit avoir toute sa place dans nos rassemblements, dans nos cultes. Il ne s'agit pas de s'intéresser à une seule partie de cette parole, mais de la recevoir, comme vous le voyez ici au verset 16, dans toute sa richesse. Et que cette parole soit présente dans les chants. Et je pense que cela nous pousse à évaluer le choix des chants. À nous demander, par exemple, est-ce que l'évangile est présent dans nos chants que nous choisissons ? Et vous le voyez ici, ces psaumes, ces hymnes, ces cantiques sont pris comme des moyens pour nous enseigner, pour nous avertir les uns les autres. Et bien sûr, Paul ajoute que les chrétiens chantent pour le Seigneur, en y impliquant tout leur cœur. Et tout à l'heure, nous avons pris ce temps pour chanter des louanges. Et j'espère que nous l'avons fait de tout notre cœur. Et nous chantons de tout notre cœur, d'autant plus parce que nous avons conscience de la grâce que nous avons reçue de Dieu. Cette même grâce qui nous est révélée constamment par la parole de Christ. C'est pour ça que cette parole-là doit habiter en nous dans toute sa richesse. Pour nous rappeler toujours que nous sommes sous la grâce. Et cette grâce nous pousse à chanter à Dieu de tout notre cœur. Merci pour cette grâce. Et c'est pour cela qu'il est question aussi de reconnaissance. Vous l'avez remarqué au verset 15, « Soyez reconnaissants ». Nous le voyons aussi dans d'autres traductions, notamment à la fin du verset 16, il est question de chanter pour le Seigneur avec reconnaissance. Et puis au verset 17, vous le voyez aussi, « Exprimez par Jésus votre reconnaissance à Dieu le Père ». La reconnaissance toujours et encore, qui caractérise, qui doit caractériser notre Église. Pas simplement « Merci Seigneur pour la semaine que j'ai passée », mais « Merci Seigneur parce que je bénéficie de ta grâce. » Et cela pour l'éternité. Merci Seigneur pour l'œuvre de ton Fils. Parce que sans cela, je ne serais pas ici. Je perdrais mon temps. Comme nous l'avons aussi rappelé tout à l'heure lors du moment de prière, merci Seigneur pour ton esprit qui nous a été envoyé, donné, pour pouvoir vivre cette vie nouvelle dont on est en train de parler en ce moment. Et vous voyez qu'au verset 17, Paul récapitule par l'exhortation de tout faire au nom du Seigneur Jésus. Si nous avons compris que toute notre vie est désormais liée à Christ, aucune de nos actions, aucune de nos paroles ne peut être envisagée en dehors de lui. Cela revient à la même idée que de marcher en lui, que de marcher d'une manière digne de son nom. Et c'est un comportement qui s'accompagne, et je le répète encore une fois, de reconnaissance. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et tout ne contient pas d'exception. Nous avons vu trois impératifs qui, je pense, résument ici les exhortations que Paul adresse aux Colossiens. Recherchez. Le deuxième, c'était ? Faites mourir. Et le troisième, revêtez-vous. Recherchez les choses d'en haut. Faites mourir ce qui est terrestre. Ces péchés qui vous collent à la peau. Et revêtez-vous. Revêtez-vous de Christ. Je pense que pour une vie équilibrée, une vie chrétienne équilibrée, nous ne devons pas perdre de vue qu'il faut faire mourir les péchés et qu'il faut se revêtir de tout ce qui fait l'homme nouveau. On a besoin des deux. Si vous penchez plus vers l'un en oubliant l'autre, eh bien je pense que cette vie est un peu déséquilibrée. Ne perdez pas en vue ces deux aspects. Et ce texte, effectivement, nous parle de sanctification. Je n'ai pas mentionné le mot, mais bien sûr, on est ici en train de parler de sanctification. Et dans cette sanctification où nous nous trouvons, d'un côté, nous devons faire mourir les péchés et de l'autre, nous revêtir de toutes les qualités possibles qui sont déjà en Christ. Nous n'avons pas à chercher ailleurs, nous devons regarder à lui et laisser son esprit agir en nous. Et enfin, je dirais que ces trois impératifs que je viens de mentionner, recherchez, faites mourir et revêtez-vous. Je pense que c'est un sujet de prière pour chacun d'entre nous. Je pense que chaque impératif est un sujet de prière. Parce que constamment, nous devons continuer à rechercher. Constamment, nous devons continuer à faire mourir. Et constamment, nous devons continuer à nous revêtir de Christ. Alors, je vous invite à ce moment où vous pouvez effectivement prier pour cela. Prier par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Paul nous dit ici. Soin à toi avec humilité parce que nous reconnaissons nos défaillances. Lorsque nous lisons un tel texte et lorsque nous comparons cela à notre propre vie, nous nous rendons compte aussi combien nous sommes loin de ce que tu nous demandes. Et nous te prions, Seigneur, parce que ce que nous croyons, c'est que nous avons déjà revêtu l'homme nouveau, que le processus a déjà commencé, que ce que tu as commencé en termes de transformation, tu vas l'achever au jour de Christ. C'est notre espérance que, effectivement, un jour, nous puissions paraître irréprochables et parfaits devant toi. Mais en attendant ce jour, nous sommes sur terre. Et nous sommes en train, effectivement, pour les uns et les autres, eh bien, de connaître peut-être bien des tentations, bien des choses qui nous dévient de toi. Accorde-nous, Seigneur, par ton esprit, de faire mourir tout cela. Parce que seul ton esprit a la puissance de faire disparaître le péché. Nous n'en avons pas la capacité, ni la puissance. Accorde-nous aussi de pouvoir nous revêtir de toutes ces qualités mentionnées, de pouvoir les rechercher, de pouvoir te demander de nous accorder peut-être plus de ceci ou plus de cela pour être plus conforme à Christ. Et accorde-nous aussi, Seigneur, de continuellement rechercher les choses d'en haut. Parce que c'est ce qui correspond à notre vie nouvelle. Et nous n'avons pas accepté une autre vie que celle que Christ nous a donnée. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que dans ce cheminement, tu es là. Tu ne nous abandonneras pas. Même tu nous garderas jusqu'au bout. Mais nous avons quand même ces impératifs que tu nous donnes dans ta parole, pour que nous puissions être actifs dans ce chemin de sanctification. Alors accorde-nous effectivement de rechercher les choses d'en haut, de faire mourir ce qui est terrestre en nous, et de pouvoir nous revêtir de l'homme nouveau avec toutes ses qualités, autrement dit, de pouvoir nous revêtir de Christ. Nous te le demandons, Seigneur, nous te supplions pour cela, parce que nous en connaissons trop bien l'enjeu. Et nous voulons te rendre grâce encore pour ta parole, par laquelle tu te révèles à nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions ensemble. Amen.